J'ai découvert la désolation totale. Le cyclone est passé avec beaucoup de force, très lentement, et donc a eu le temps de tout détruire pratiquement. Donc trois semaines après, un peu de verdure reprend, mais tout est arraché, tout est détruit, à part quelques maisons, celles qui ont été construites en dur, en béton. Les arbres, les plantes dans les champs, les maisons ordinaires des citoyens ordinaires qui sont les plus nombreux en Haïti, c'est-à-dire pauvres, tout a été balayé. Plus on va vers l'ouest et plus c'est dramatique, si je puis dire. Donc c'est une catastrophe majeure. Et c'est un sentiment de désolation. Je ne sais pas si vous avez vu une photo de Nagasaki ou d'Hiroshima après la bombe atomique, quand il n'y a plus rien, quelques murs de maison. C'est à peu près la même photo que j'ai eue sous les yeux pendant que j'étais là, aussi bien donc dans l'ouest des Cailles que l'ouest de Jérémie.
Dans quelles conditions vivent les gens? Là, vous parlez de zones complètement dévastées, ça veut dire qu'ils se sont regroupés? Est-ce que c'est dans des camps informels, dans ces structures justement qui ont résisté, qui sont en béton?
Ceux que l'on voit dans les villages qui sont accessibles par la route, effectivement, sont regroupés dans les bâtiments durs, qui sont souvent les écoles, ou bien les mairies, mais la plupart ont choisi de rester chez eux à la belle étoile. Or, il pleut en ce moment beaucoup, ce sont des pluies tropicales qui sont des pluies fortes, et les gens vivent dans l'eau. Et ceux qu'on ne voit pas, c'est dans les villages non accessibles par la route. On ne sait pas très bien dans quelles conditions ils vivent. Nos collègues de Caritas City disent qu'ils vivent tout simplement sur les ruines de leur maison. Un certain nombre sont déplacés, et sont allés vers Port-au-Prince ou vers les Cailles, vers les villes, là où ils ont de la famille. Mais on ne sait pas quel nombre de personnes se sont déplacées de cette manière. Donc beaucoup restent vivre parce que ce cyclone a été particulièrement destructeur, mais ils en connaissent régulièrement et ils ont cette capacité de s'adapter. L'alimentation est quelque chose d'important puisqu'il n'y a plus rien à manger. Les marchés sont mal approvisionnés. La nourriture vient d'autres régions du pays. Mais il faut descendre jusqu'au marché pour trouver cette nourriture. Donc on n'est pas sûr que ceux qui sont là-haut, dans les collines, dans les mornes, puissent se nourrir vraiment. Je pense qu'il y a une famine latente dans ces zones-là. En plus, l'aide humanitaire qui arrive via le gouvernement haïtien, via de grosses ONG internationales, reste en général dans les centres urbains et dans les villages qui sont traversés par les routes principales. Mais à l'intérieur du pays, l'aide arrive peu. Caritas, très préoccupé par cette situation, et m'a redit qu'ils vont aider ceux qui ne reçoivent rien, qui sont loin.
Même sans parler de ces villages inaccessibles, on dit que même dans des grandes villes, il y a peu de soins dispensés, en tout cas pas de soins dispensés gratuitement ou très peu aux personnes qui en auraient besoin.
Je ne suis pas rentré dans un hôpital. Je ne sais pas. Oui, effectivement, il faut payer. On m'a parlé d'une femme enceinte qui avait des problèmes et qu'on a emmené à l'hôpital. Et pour être soignée, effectivement, il fallait payer. Elle n'avait pas de quoi payer. Donc, oui, rien n'est gratuit véritablement. Les services publics ne fonctionnent pas comme on les connaît dans les pays occidentaux. Et il faut aussi, pour aller à l'école, payer l'uniforme, payer les livres et les cahiers et rémunérer en partie les professeurs. Et la plupart des écoles ayant servi de lieu de refuge pour les sinistrés, l'école ne fonctionne pas en ce moment. Il est prévu qu'elle reprenne en novembre, mais je ne sais pas si ce sera véritablement possible.
Vous parliez de la Caritas Haïti qui allait essayer d'apporter de la nourriture au moins à ces personnes qui sont très isolées. C'est quoi les besoins? Est-ce que c'est justement la nourriture, l'eau aussi, puisqu'on voit l'émergence de ces nombreux cas de choléra qui reprennent, etc. C'est quoi les besoins les plus urgents?
Il y a l'eau de pluie pour beaucoup qui leur suffit, mais l'alimentation de base, effectivement, donc Caritas, comme beaucoup d'autres, prépare des kits d'alimentation avec des produits non périssables et qui vont être distribués sur des points de distribution dans les mornes. Il y a aussi des kits d'hygiène avec du savon, papier toilette, des produits d'hygiène de base. Et puis, avec le kit d'alimentation, vient aussi souvent un kit d'ustensiles de cuisine parce que tout s'est envolé et il faut repartir à zéro. Sur le plan sanitaire, le réseau des cliniques, des centres de santé, des dispensaires catholiques est assez important dans le pays. Et donc il y a des aides en médicaments pour ces centres de santé, ces dispensaires.
Il y a eu un certain nombre de critiques ou de préoccupations quant à la coordination de différentes agences internationales ou ONG internationales. Est-ce que c'est le cas? L'Église, j'imagine, ça fonctionne très bien. Est-ce que vous fonctionnez avec d'autres aussi?
Le gouvernement haïtien, pour quelles raisons, je ne sais pas, n'a pas voulu déclarer l'état d'urgence. Pourtant, quand on y va, et 3 semaines après, c'est véritablement un état de grande urgence. Donc l'État n'ayant pas déclaré l'état d'urgence, la communauté internationale ne s'est pas mobilisée comme elle se serait mobilisée si ça avait été le cas. Et donc il n'y a pas suffisamment d'aide internationale qui arrive aujourd'hui en Haïti pour ces zones-là. Ensuite, il y a un système de protection civile au niveau de la commune, au niveau du département et au niveau de l'État, qui sont des bases de coordination pour tous les acteurs qui sont sur place. Mais les moyens à leur disposition sont très limités. Donc ils jouent plus un rôle de coordination qu'un rôle d'action. Curieusement, mais c'est la réalité d'Haïti, ce sont les élus, députés, sénateurs, qui servent de courroie pour l'aide. Donc à Port-au-Prince, ils obtiennent des ressources directement du ministère de l'Intérieur et ils vont distribuer eux-mêmes ou faire distribuer des aides. Évidemment, c'est très politisé, ça va à leurs partisans et pas aux autres. Les maires sont souvent très démunis face à cette réalité-là.
Peut-être qu'il faut aussi parler justement de ces personnes qui reçoivent ou ne reçoivent pas de l'aide. Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui?
J'ai trouvé des gens très dignes, qui ont l'habitude de vivre dans la pauvreté et qui font avec. Évidemment, quand il n'y a plus rien du tout, ça devient très difficile. J'ai rencontré des gens dont le regard était hagard, donc des gens traumatisés, y compris le curé, par exemple, d'une paroisse sur la côte ouest, Rochabateau, un jeune prêtre dont on voyait clairement qu'il n'était pas bien, quoi. Le presbytère en partie détruit, l'église n'a plus de toit, la façade en partie effondrée sous la pression du vent. Le couvent des sœurs à côté et l'école secondaire, primaire et secondaire détruites en grande partie. Les sœurs encore là tenant un dispensaire dans une maison qui n'est pas tombée. Mais chez les sœurs aussi, des regards de personnes traumatisées. Donc ce sont des gens qui vivent dans la dignité, mais qui sont marqués par ce qu'ils ont vécu. Après, quand l'aide arrive par la route, dans des camions, il y a eu des personnes qui ont arrêté les convois et qui ont pillé ces convois. Il y a eu une grande agressivité. Aujourd'hui, les convois sont regroupés et sont protégés par les forces des Nations Unies qui sont présentes en Haïti, la MINUSTAH. Mais quand j'étais à Jérémie dimanche, il y a un cargo qui apportait de l'aide qui n'a pas pu accoster au quai parce qu'il y avait une foule en furie sur le quai. Et donc la peur que les gens montent à bord et pillent tout, le bateau s'est éloigné de la côte. Et cette agressivité, elle est due au fait que l'État n'assume pas son rôle, quoi, et que l'aide n'est pas distribuée équitablement.
Donc la priorité maintenant, c'est vraiment une redistribution plus juste de l'aide pour retrouver l'apaisement.
Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, je crois que les Haïtiens savent attendre, quoi, savent faire face et attendre. Mais quand on a grand faim et que rien n'arrive ou que l'on voit des personnes recevoir et d'autres pas, alors effectivement, mais la nature haïtienne n'est pas agressive a priori. Donc si la distribution est effectuée d'une manière plus rationnelle, effectivement, il y aura moins de cas de violence comme il y a eu surtout au début.